Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir et merci d'être toujours fidèle à cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, c'est chaque jour de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Prévue pour s'achever ce mercredi 9 avril dans la première zone, les opérations de révision des listes électorales reçoivent une journée supplémentaire. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a officiellement prolongé les activités au jeudi 10 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Selon la CENI, la décision vise à permettre à tous les citoyens de cette zone d'obtenir leur carte d'électeur. Les heures d'ouverture et de clôture des centres de révision sont maintenues de 7h à 17h, a précisé la CENI. Pour rappel, la zone 1 regroupe les communes des lacs du Bamono, de Vaud, de Zio, de Yoto, de Lavé, du Haro, d'Aguanivé et du Golfe. La révision concerne les citoyens ayant égaré ou abîmé leur carte, ceux ayant des modifications à effectuer ou encore toutes les personnes n'ayant pas pu s'enregistrer lors du dernier recensement en raison d'une indisponibilité ou de l'âge requis 18 ans révolu. Nous aborderons le sujet dans cette émission et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 10 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoutia assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul, nous sommes à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes déjà présents en studio avec moi, c'est Ambroise Bonzo. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour nos amis techniciens qui sont derrière la belle vitrée. Bonjour à ceux qui nous suivent depuis Saint-Cassé jusqu'à Lomé. Les radios partenaires dont tu as cité, ceux qui sont à l'extérieur du Togo, je parle bien de nos confrères ou nos collègues ou nos concitoyens de la diaspora. Je voudrais d'entrée profiter pour envoyer ce message au ministère de la Culture. Il y a une situation qui est là, qui doit préoccuper le ministre de la Culture. Je crois que c'est le même ministre qui s'occupe de la communication, et des médias.
Oui.
Ça concerne les promoteurs de casting awards, c'est-à-dire que les promoteurs du cinéma, ceux qui font les courts métrages, les moyens métrages, les Togolais qui se débrouillent. Vous savez que le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le Cameroun sont très en avance sur nous, et je crois que ça doit commencer par le backcasting, le micro cinéma. Et c'est ce que certains de nos compatriotes, les jeunes, sont en train de faire. Et ils ont besoin du financement. Il nous est revenu que les courriers envoyés souvent au niveau du ministère n'ont pas toujours de réponse. Certains ont déposé des projets qu'on essaie de classer dans d'autres vagues de projets qui ne sont pas concordants. Et nous allons... j'ai juste voulu envoyer ce message au ministère, au directeur du cabinet du ministère de la culture et de la communication, au ministre elle-même, et ensuite à tous ceux qui sont là et que ce dossier concerne, de faire diligence pour que nos amis qui sont dans la culture qui est le dernier rempart de tout ce qu'on a eu à rater, hein, en termes de d'acquis que nous avons chez nous au Togo, je crois que le Togo mérite aussi d'être au devant. Nous avons connu des jeunes producteurs ou réalisateurs comme Steven Af qui est là, mon chef Koko Agbemandon qui est parti à la retraite, mais qui est dans la production actuellement, dans la production privée. Il y a la dame qui a été nommée tout récemment directrice de l'ERTB au Bénin. Chez nous, on dit souvent nous manquons la joie, mais je suis obligé de citer certains. Et donc, il y a aussi ces jeunes-là qui sont là et qui veulent quand même se lancer dans l'affaire. Ils font déjà plus de 5 ans dans cette affaire-là avec des petites productions sur WhatsApp, sur TikTok. Il faut que le ministère arrive à les financer, à les pousser pour que le Togo soit aussi parmi ce rang-là. Donc, ce message, je les envoie. J'envoie ça clairement au ministre de s'occuper de ce dossier-là parce qu'il y a des courriers, selon nos informations, qui sont envoyés, qui n'ont pas eu de réponse.
D'accord, merci. Le message est passé. Ambroise, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous attendons incessamment d'autres confrères. Il y a Magloa qui invite Eko, que nous attendons bien sûr de Flambeau des Démocrates. Et aussi l'homme à Tissoukbe, hein, du journal La Nouvelle Tribune, qui vont nous rejoindre incessamment. Et là, voilà, je ne le laisse même pas s'installer d'abord avant de lui souhaiter la bienvenue. Magloa qui invite Eko, bonjour.
Bonjour à toi Pascal, bonjour aux confrères Ambroise, bonjour à nos chers techniciens grâce à qui on nous écoute un peu partout dans le monde et bonjour à nos chers auditeurs, auditrices de la nouvelle génération.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu, ça va.
Et je vous ai vu essouffler là, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est parce que vous étiez un peu pressé?
Oui, c'est vrai que j'avais fait un détour quelque part avant d'arriver ici. Mais comme vous savez, quand vous avez rendez-vous avec les auditeurs qui sont après tout nos patrons, parce que c'est pour eux que nous sommes là, c'est pour eux que nous nous efforçons à écouter peut-être tous nos programmes pour être au rendez-vous, je me dois d'être à l'heure. Malheureusement, j'ai accusé un retard de 5 à 6 minutes. Toutes mes excuses.
Une fois n'est pas coutume quand même.
Ouais.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ambroise,
oui.
Votre journal des Guadiens est justement dans les kiosques ce matin. Je suis intéressé par ce sujet que vous avez mis à la une lors de votre journal et je voudrais qu'on commence le débat avec cela. Vous écrivez, vous intéressez à l'enseignement supérieur et vous écrivez oui. Monsieur le ministre Dantaba et son DG de l'Office des examens, professeur L. Larry. Avec votre examen national, est-ce que nous sommes encore dans le système LMD? La question mérite d'être posée, c'est ça?
Et ça mérite une réponse, effectivement. Cette question mérite d'être posée tout simplement parce que une réponse simple voudra envoyer ce message au ministre et son collaborateur, le directeur des offices des examens du supérieur, que le LMD ou les examens nationaux dont il prône ou dont il parle sont incompatibles au système LMD. Pourquoi ces examens-là sont incompatibles au système LMD? On serait dans l'ancien système, avant le système LMD, qui a été amorcé en 2008 et qui a eu son couronnement avec sa concertation en 2017 avec une loi. On pouvait imaginer organiser des examens entre les étudiants de la licence, toutes les universités du Togo, privées. Au départ, c'était les universités publiques et privées. Mais eux, ils ont refusé, donc on est à privé. Là aussi, on va y revenir dans une prochaine parution. Alors, la dernière fois, le ministère a organisé un atelier, parce que c'était le ministre Iou Ateba qui est parti, qui avait soulevé ce dossier par un simple arrêté. Et comme ça n'a pas marché, il a soumis aux membres du gouvernement et qu'ils ont pris un décret. Et là aussi, je voudrais tout simplement dire que quand on parle des examens nationales, c'est très compliqué en matière de LMD. Le LMD, c'est quoi? Le LMD, ce n'est pas comme l'ancien système où vous allez avec toutes les matières et on comptabilise, on additionne toutes les notes et on descend, on fait la division et vous avez votre moyenne. Ici, c'est un système qui explique le fait qu'on soit dans un système anglo-saxon. C'est-à-dire, il y a plusieurs unités d'enseignement et il y a plusieurs crédits à valider. 60 crédits en première année, c'est-à-dire L1, 60 crédits en deuxième année et 60 crédits en troisième, ça fait 120 crédits pour le tout. Alors, la première question que je voudrais poser à monsieur le ministre et son collaborateur, le directeur...
Non, c'est 180 plutôt.
Oui, 180. Mais tu dois avoir au moins 120 avant d'aller peut-être à cet examen-là. Oui. Et donc, quand on arrive, on a 80 crédits, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrivé à valider certaines matières en aval. Il faut tout faire pour retourner. Le système LMD, vous êtes dedans, vous pouvez continuer sans avoir validé telle ou telle matière en aval. Et donc, comment ça va se faire? Donc, quel nombre de crédits, la première question, quel nombre de crédits est éligible à l'examen national dont on parle? C'est 120 crédits? C'est 70 crédits? C'est 90 crédits? Il semble que les responsables du ministère ne maîtrisent pas. Je ne suis pas en train de leur envoyer un message à tout faux. Mais il semble qu'ils ne rentrent pas dans le fond du système LMD. N'oubliez pas que les établissements privés supérieurs ont un agrément. L'agrément indique clairement que vous formez vos étudiants, vos apprenants, vous leur délivrez un diplôme. Comme ça se fait partout dans les universités dans le monde. À Harvard, l'État n'organise jamais un examen national pour qui que ce soit. Que ce soit en Californie, que ce soit en France, il n'y a aucun examen national pour qui que ce soit parce que nous sommes dans un système LMD où l'étudiant valide et ne valide pas, il revient pour valider, mais continue quand même. Alors, le plan juridique, nous avons soulevé le plan juridique ce matin parce qu'il y a comme l'impression que nos responsables de ce département ignorent la hiérarchie des normes en matière de règlement et en matière de loi ou de règles constitutionnelles. Ici, nous sommes face à une loi de 2017 qui consacre le LMD. Et dans cette loi, tout est dit dans la loi. Maintenant, de vous à moi, entre une loi et un décret, le décret et l'arrêté sont des actes réglementaires. Maintenant, la loi, elle est législative. C'est le peuple à travers les députés qui vote une loi pour l'ensemble du peuple. Mais un président ou un ministre qui prend un arrêté ne peut jamais être dehors dessus d'une loi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on veut confronter le décret du président qui sûrement a été induit en erreur parce que dans un système LMD, on ne peut jamais organiser des examens nationaux. Il y a des intérêts ailleurs. On va aussi revenir. Nous avons consulté certains juristes et c'était clair que on ne peut pas aller organiser des examens à des étudiants qui n'ont pas encore validé telle matière en aval. Maintenant, si au moins tout le monde, avec tout ce qu'il y a dans le contour, si au moins tout le monde avait le même crédit, 120 crédits ou 180, avant qu'on nous dise, parce que pour soumettre les étudiants à un examen, ce n'est pas toutes les matières. Parce que chaque établissement a des matières, au moins beaucoup de matières se ressemblent et qui sont les mêmes. C'est les matières fondamentales, par exemple. On prend le droit constitutionnel, c'est une matière fondamentale. On prend le droit de la famille, par exemple, en L1, c'est une matière fondamentale. On prend par exemple le contentieux international, en deuxième année, peut être aussi une matière fondamentale. Et maintenant, il y a des autres matières subsidiaires qui sont coefficient 2 et coefficient 3. Les matières fondamentales sont souvent coefficient 5. Et donc, peut-être ce sont ces matières-là qui sont concernées par les examens nationaux. Comment les ministres comptent-ils prendre pour organiser ces examens-là avec l'ensemble de ces universités qu'on a au Togo? Et donc, le problème est ailleurs. Le problème n'est pas d'organiser les examens. Si vous voulez contrôler les examens organisés par les universités privées en leur sein, de façon interne, personne ne peut vous le refuser. Au mieux, si vous voulez envoyer même des enseignants ou des étudiants surveillés dans ces établissements qui organisent les examens, personne ne vous le reproche. Et c'est pourquoi j'ai dit au départ, on serait dans un ancien système avant 2008. Ok, on peut organiser les examens nationaux pour l'ensemble de ces étudiants-là de Kara, de Dapon jusqu'à Lomé. Mais le Togo n'est pas dans une bulle. Nous sommes dans le Conseil des Nations. Et pratiquement, les 190 pays dans ce monde, je ne vois dans aucun pays où on organise un examen national dans un système LMD.
D'accord, oui. Magloire, que je ne sais pas si vous cernez un peu ce que Ambroise évoque, parce que oui, le système LMD aujourd'hui là à l'université de Lomé. Entre-temps, bien sûr, on nous parlait alors de l'harmonisation des programmes, et au-delà de l'harmonisation des programmes, c'est plutôt des examens nationaux qui seront organisés en licence. Et là, Ambroise trouve que c'est compatible cette question, surtout alors d'examens nationaux, ce n'est pas compatible, j'allais dire, avec le système LMD.
Oui, écoutez Pascal, c'est vrai que je ne maîtrise pas vraiment le sujet en profondeur et donc je ne peux donc pas chercher à aller beaucoup plus que ce que je sais. Mais avouons tout de même que ce que dit le confrère Ambroise, puisqu'il n'est pas à son premier exercice, c'est un sujet sur lequel il revient très souvent dans son journal. Et j'estime qu'à partir de ce moment-là, il faut quand même s'arrêter un temps soit peu pour essayer de l'écouter, pour voir ce qu'il y a lieu de faire dans la perspective donc d'améliorer ce qui a amélioré. Moi, je pense que si on a un ministère dédié, n'est-ce pas, à l'enseignement supérieur, c'est de faire en sorte que l'enseignement supérieur soit de qualité. Et si à un moment donné, le gouvernement entier a décidé d'aller dans ce sens, c'est qu'on a estimé à un moment donné que c'était la bonne voie. Mais quand même, acceptons quand même qu'on se pose des questions. Vous savez, on n'est pas quand même au premier degré ou au second degré où lorsqu'on est en classe de CM2 ou de 3e ou de terminale, c'est-à-dire que vous êtes dans la même classe avec les mêmes épreuves, qu'on soit à Lomé, à Dapan, à Kara ou à Sokodé, on sait que lorsqu'il y a examen, on va vous évaluer sur des disciplines ou des matières égales, les mêmes matières pour tous les élèves. Maintenant, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, je comprends également l'inquiétude d'Ambroise parce que le système est un peu différent de ce qu'on a dans le système, dans l'enseignement primaire et secondaire. Parce que avec le système LMD, par exemple, il se trouve que on a des crédits.
Ils sont à valider.
Et si vous avez peut-être 10 à 15 crédits à valider pour le semestre, disons 4 et 6, qui est donc considéré comme, la dernière année de licence, mais vous pouvez aller avec les 10 crédits et ressortir à la fin de l'année avec, je crois, peut-être 2 ou 3 crédits. Et il va vous rester des crédits à valider après. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire votre inscription à nouveau l'année qui suit.
Mais vous passez par un examen spécial.
Voilà.
Pour le valider.
Maintenant, quand on dit qu'on va
organiser... Il y a des rattrapages.
Exactement. Mais quand on dit qu'on va instaurer un examen national, je ne sais vraiment pas comment ça va se faire. Est-ce qu'on a pris le temps d'expliquer la démarche de fond en comble à tous les acteurs? Je ne crois pas. Parce qu'on était là, on est quand même des journalistes, on était là quand d'un coup le sujet a surgi comme ça et on ne sait pas si c'est l'émanation de tous les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur. Si tel est le cas, là, j'applaudirais si c'était tous les acteurs qui ont décidé d'aller dans le même sens. Mais comme je dis, ils sont peut-être les premiers acteurs, ils décident d'aller dans la direction où ils veulent, mais ça n'empêche pas quand même que, dans les citoyens que nous sommes, qu'on puisse se poser des questions et de bonnes questions d'ailleurs. Et je crois que c'est ce que le confrère Ambroise essaie de faire. Et pour moi, c'est quand même suffisant, vu tout le temps qu'il passe sur ce sujet, qu'on s'arrête tant soit peu, ne serait-ce que l'aborder pour mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Parce que moi qui suis ici également, c'est vrai qu'au Journal Flambeau des Démocrates, on n'a pas encore traité de ce sujet. Mais je comprends, les questions sont légitimes et c'est tout à fait normal qu'il puisse les poser. Je crois que c'est l'occasion à jamais d'expliquer à tout le monde une fois pour de bon. Peut-être si c'est les populations qui ne comprennent pas ou nous autres qui ne comprenons pas, on aura le temps de suivre les explications idoines pour comprendre et puis on va évoluer plutôt que de passer tout le temps sur le sujet. Et c'est comme si c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire que d'un côté, on fait ressortir les imperfections de cette approche, mais de l'autre côté, on se dit, mais nous, on a décidé puis on avance.
C'est justement parce qu'il y a des intérêts. Vous savez, avant que l'on me prenne, il a dit que les gens m'approchent. Moi, je n'ai pas besoin que... Moi, je suis journaliste. J'ai fait mon travail, mais c'est bien. Mais que le sujet soit soumis aux députés, à l'Assemblée. Que les acteurs soient interpellés, les juristes soient interpellés, les acteurs des universités soient interpellés pour que le chef de l'État rentre dans ce dossier pour savoir si réellement le CICEL, dans le CICEL même, on peut organiser les examens nationaux. Parce que quelque part, quand vous lisez, vous comprendrez qu'il est clairement indiqué que les universités privées n'ont pas les mêmes agréments, puisque certains font la licence fondamentale, d'autres la licence professionnelle. Ici, c'est plus concerné la licence professionnelle. Et en plus de ça, et les établissements n'ont pas les mêmes maquettes. Ils n'ont pas les mêmes syllabus, ils n'ont pas les mêmes contenus d'enseignement. Et donc, ce n'est pas possible. Et donc, s'ils veulent coûte que coûte y aller, il faut que l'Assemblée nationale, qui est l'instance décisionnelle au plan national, sur le plan légitimité, parce que c'est le peuple qui leur a conféré ça, demande au ministre de venir, qu'on interpelle les acteurs du domaine, c'est-à-dire les promoteurs de ces établissements, et qu'on appelle les juristes et ceux qui maîtrisent le système LMD, pour qu'on sache si réellement ceux qui sont en train d'avancer là, si ce n'est pas courir derrière l'argent des écoles privées, ça on va revenir sur ça, hein. C'est les gens peut-être sont en train de viser combien telle école privée va envoyer pour ces examens là, peut-être c'est 1 million, l'autre...
Qu'il a été dit quand même.
Oui, tu sais, dans ce pays, rien n'est gratuit. Je voudrais que le chef d'État lui-même puisse regarder, parce qu'il avait, réfuté ça entre-temps. Parce que le ministre, il avait voulu faire ça en 2024. On lui a dit d'expliquer ça et d'amener dans un décret. Et c'est pour ça qu'il a dit que cela sera appliqué en 2025. En 2025, 24-25, ça n'a pas été possible aussi, parce qu'on a, soulevé beaucoup de choses qui a intéressé les membres du gouvernement. Et que les autres ministres aussi, il y a des juristes parmi eux, puissent mettre leur nez. Que les anciens de l'université. Pourquoi les autres universités publiques ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là? Parce que c'est pour organiser un examen national, c'est pas forcément pour les étudiants privés. Pour que les diplômes soient concordants, il faut que tout le monde soit soumis au même test. Pourquoi ils refusent? C'est parce qu'il y a un problème. Maintenant, vous voulez soumettre des autres parce que vous cherchez l'argent. Hein? On va revenir sur ça.
D'accord.
Mais je dis aujourd'hui qu'on n'est pas un sujet aussi grand et vaste et sensible ne peut pas être laissé dans la main d'un décret.
D'accord.
Ça, c'est un sujet à légiférer.
Merci Ambroise. Hello Mathis Obé, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je rends grâce, merci.
D'accord, nous sommes en train de débattre d'un sujet très important concernant surtout l'enseignement supérieur. On sait que tout récemment, ça a été annoncé, bien sûr, qu'il y aura un examen national, surtout dans le supérieur, par rapport à la licence, avec même d'ailleurs l'harmonisation des programmes qui a été également annoncé tout récemment avec un atelier à l'université de Lomé, avec même d'ailleurs les universités privées. Mais aujourd'hui, l'insuffisance que dénonce plutôt Ambroise dans ça, c'est que par rapport à cet examen national, comment la faisabilité se fera, surtout que nous sommes dans LMD où on doit valider des crédits.
Non, je crois que on doit faire preuve de pédagogie, faire davantage preuve de pédagogie au niveau du ministère. C'est vrai qu'on en a parlé avec les autres universités, mais ils doivent quand même expliquer davantage la faisabilité de cette réforme. C'est vrai, il est bien vrai que dans plusieurs universités et instituts privés aujourd'hui, il y a beaucoup de filières qu'on ne comprend pas. Lors d'une rentrée académique, telle université ou tel institut vous dit que bon, il y a une nouveauté, une innovation, on prépare les gens dans une licence, dans un domaine bizarre. Excusez-moi si je dis bizarre, mais chaque année, on a quand même des filières qui s'ouvrent, on ne comprend pas. Et c'est bien vrai qu'il y a un système LMD, mais il y a aussi le fait que dans les instituts privés, on se pose la question de savoir si les gens font du LMD. Par exemple, les instituts privés de formation, vous avez des écoles d'enseignement supérieur, vous posez la question si vraiment les gens font de LMD. Mais il y a des écoles comme ça où les gens ne font pas le LMD. Les gens font la validation des acquis, ils font le cursus normalement, mais le LMD, officiellement, c'est dans les universités publiques et dans certaines universités qu'on connaît. Mais il y a des instituts où on ne fait pas l'LMD. Le fait d'aller vers... Moi, je n'ai pas participé à cet atelier, mais le fait d'aller vers cet examen national, Bon, j'ai appris comme tout le monde, voilà, qu'il y aura un examen national, mais concrètement, comment ça va se faire? Quelle est la faisabilité? Et pourquoi est-ce que justement on veut aller vers cet examen national au niveau de la licence? C'est très important de le dire. Et donc, on attend de voir comment ça va se passer. De toutes les façons, je pense que son prédécesseur, Monsieur Iou, avait également fait des réformes. Il avait annoncé des réformes, je crois, par rapport justement au diplôme de la licence. Et voilà, le ministre Natiaba qui vient aussi. Qui pense que ce serait nécessaire de pouvoir faire un examen national pour la licence. Et bon, on attend de voir comment ça va se passer parce que on a quand même des professeurs d'université qui sont là, on a des gens qui sont aguerris. Le ministre même qui est aux affaires maintenant, c'est quelqu'un qui est très aguerri pour pouvoir qui pouvoir parler de ça. C'est quelqu'un qui est assis. Donc, je crois quand même qu'il a les ressources nécessaires pour pouvoir expliquer, faire preuve de pédagogie par rapport à cette réforme.
Oui, mais Mabla, quand on prend la LMD aujourd'hui, est-ce que ça ne, oui, est-ce que ça ne s'impose pas à nous? Oui, je suis à tous les établissements scolaires, je vous l'ai dit.
Dans le monde.
Oui, normalement. Et voyez-vous, moi, je le dis, l'idéal, peut-être, vous savez, quand on prend un État, c'est que quoi? C'est une entité qui est là. Et dans cette entité, chacun a un pan de pouvoir qu'il exerce avec des hommes de compétence. Et j'estime que dans le domaine de l'enseignement supérieur, lorsque le ministre Iou avait eu l'idée, n'est-ce pas, de commencer par organiser une licence, enfin, un examen national pour l'obtention de la licence, et ça avait fait débat. Mais je constate que juste après lui, son successeur, le ministre Natiaba, a également continué dans le même sens. Et je voudrais bien croire que après évaluation au niveau du secteur du ministère de l'enseignement supérieur, avec tout ce qu'ils ont comme ressources humaines là-bas, c'est parce qu'ils ont compris à un moment donné qu'il fallait procéder comme cela. Mais alors, si tel est le cas, mais comme l'homme l'a dit, il faut une démarche explicative pour amener les uns les autres. Parce que j'estime que peut-être nous autres, c'est parce qu'on ne comprend pas comment ça va se faire, qu'on se pose des questions. Mais si tel est le cas, que l'État est convaincu que c'est la bonne démarche à faire, mais pourquoi ne pas expliquer cela aux populations? Moi, quand on parle d'atelier, mais c'est ceux qui y étaient qui ont compris quelque chose, n'est-ce pas? Quand on est à la maison, on ne peut pas faire du charlatanisme pour se retrouver là-bas et savoir de quoi on a discuté là-bas. Moi, au-delà de ces ateliers, parce que on est togolais, on comprend, on sait aussi ce qui se cache derrière ces ateliers souvent. Mais après, ceux qui participent à des ateliers, vous les abordez, de quoi avez-vous discuté? Les gens vont commencer par bégayer. Ils sont juste intéressés par ce qui va sortir de ces 2 ou 3 jours d'atelier. Et donc, pour moi, oui, les ateliers, certes, mais il faut mener vraiment une campagne de sensibilisation à travers tout le pays.
D'abord une enquête pour savoir
Voilà.
ce qu'il veut faire là.
Voilà.
Est-ce que c'est possible? C'est là
Si
où la question se
vraiment on
pose.
est convaincu que c'est la bonne démarche, et ça va arrêter les spéculations. Parce que dans ce sens-là, si, parce qu'on se dit que c'est nous, les autorités, c'est à nous que revient le pouvoir d'administrer, n'est-ce pas, le secteur de l'enseignement supérieur. On fait comme on veut, mais je vous assure, l'approche n'a pas une adhésion populaire, ça ne va pas marcher. Parce que Ambroise, après tout, c'est un parent. C'est un père de famille, son enfant est élève peut-être aujourd'hui, mais deviendrait étudiant demain. Lorsqu'il n'a pas le cœur dans ça, mais je me dis, ça ne va pas créer une belle osmose. Et ce que nous demandons ici, c'est que ça soit une démarche collective. Et pour le moment, ça n'a pas l'air. C'est pourquoi nous disons, si le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement supérieur, se dit convaincu par la pertinence de sa démarche, alors marquons une petite pause pour mener de bonnes enquêtes. Et puis après, entreprendre une grande tournée de sensibilisation à travers le pays. Et après ça, tout le monde va comprendre.
Merci beaucoup, Magloire.
Je vais juste
oui,
finir.
On va finir
rapidement
sur le sujet.
C'est moi qui ai soulevé le sujet. Ce qui est clair, c'est que les offres de formation, personne ne refuse. Hein. Harmoniser les offres de formation dans toutes les universités privées, c'est bon. Et je sais aussi que, pour le moment, je ne connais pas une université qui n'est pas dans le système MD. Parce que je ne sais pas comment, quand il va quitter là-bas pour aller dans une autre université, cela serait possible. Le CNMD, c'est toujours la validation des acquis. C'est toujours, comment on appelle ça, la validation des crédits. Parce que quand tu ne valides pas, tu continues, mais tu es obligé de venir valider avant d'avoir ton diplôme. Et maintenant, il y en a parmi ces étudiants-là qui, déjà en mois de juin, quittent le Togo pour aller en Campus France, pour aller en Europe, pour continuer les études. Alors, l'examen national, dans la faisabilité, on va y revenir. Il a dit comment ça va se faire, quand ça va se faire, et comment ces étudiants-là auront leur papier pour quitter à temps. C'est pourquoi je dis très bien que l'Assemblée nationale, le gouvernement, insulte l'Assemblée nationale, le ministre, pour qu'on interpelle les acteurs, les promoteurs et les juristes pour expliquer le bien fondé de ces examens nationaux face au LMD. Parce que, je le répète, l'incompatibilité de l'examen national et du LMD est évidente. Elle est très évidente parce que, je l'ai déjà dit, il ne faut pas me répéter, qu'on soumette ça à une enquête, que ceux qui maîtrisent la chose, parce que vous savez, les examens nationaux, c'est l'argent, hein, c'est comme les concours, on prend 5 000 là, c'est l'argent. Et les écoles privées ont pris leur agrément. L'agrément leur dit de former les étudiants, de leur délivrer un diplôme. L'agrément est clair. Et chacun a eu son agrément sur les unités d'enseignement. Le CAMES, pourquoi le CAMES est là? Le CAMES est au-dessus de tout ça. Mais il y a certains qui ont eu des agréments accrédités par le CAMES. Les filières sont accréditées par le CAMES. Si ce n'est pas bon, le CAMES le dira. Le CAMES dépasse le Togo ou bien. Maintenant, ici, on vient nous dire organiser un examen national. Je suis d'accord qu'on invite les universités pour dénicher là où il y a le faux. Je suis d'accord avec ça. Et là où il n'y a pas de sérieux, il faut que le ministère fasse plutôt un contrôle pour dénicher ça. Mais organiser un examen national face au LMD, moi je répète qu'il y a incompatibilité. Ce n'est pas possible.
D'accord. Et je pense quand même qu'on reviendra sur ce sujet tel que vous l'avez si bien dit, Ambroise. Le LMD avec sa compatibilité avec l'examen national au niveau de la licence. On reviendra là-dessus, il n'y a pas de souci. Deuxième sujet, puisque nous allons quitter le sujet, on s'intéresse à un autre sujet. C'est ce sujet quand même alors qui concerne le secteur privé. Elom, vous êtes revenu sur un certain nombre de mécanismes mis en place par le gouvernement. Je veux bien parler de l'OTR, la MU et ces autres. Et vous écrivez comité de concertation État secteur privé, OTR, AMU, les souhaits du secteur privé. Et quels sont ces souhaits, allons-nous dire? Ou c'est cette question que nous allons vous poser, Elom?
Non, je vais te demander plutôt, Jean, d'acheter le journal. Parce que si je parle de ces souhaits ici, je vais vider l'article de son contenu. De toutes les façons, c'était une réunion très importante du comité de concertation État-secteur privé, en présence du ministre de l'économie et des finances, du président de l'association des grandes entreprises du Togo, du président du conseil national du patronat, en présence également du commissaire général de l'OTR, d'un cadre de la Caisse nationale de sécurité sociale et également de la coalition des jeunes entrepreneurs du Togo. Donc vous comprenez que cette réunion était très importante pour débattre d'un certain nombre de sujets de préoccupation liés au secteur privé, notamment des entreprises. Et donc lors de cette réunion justement, le ministre de l'économie et des finances a plutôt félicité le secteur privé qui, selon lui, est le grand pouvoir d'emploi, la création de richesses, et a souhaité justement que les préoccupations, les recommandations puissent être traitées dans le cadre de ce dialogue public-privé afin de pouvoir trouver un certain nombre de solutions. Et donc les préoccupations étaient beaucoup plus liées d'abord au régime fiscal, à l'OTR, et ensuite à l'AMU, à l'assurance maladie universelle. Et il y a eu quand même des représentants de notamment de l'OTR, de la CNSS, qui ont présenté les efforts ou la situation actuelle au niveau de ces deux secteurs, avant justement de pouvoir redonner la parole au secteur privé pour faire ses observations par rapport à un certain nombre de choses. Et vous êtes d'accord que voilà, le débat était quand même houleux par rapport justement à des préoccupations liées aux impôts, aux douanes, etc. Et ensuite à l'AMU, où le secteur privé a souhaité justement qu'il puisse être associé, voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner aussi la mise en œuvre réussie de cette assurance maladie universelle. Et ils ont dit des choses très intéressantes. Et comme je l'ai dit tantôt, je ne vais pas vider l'article de son contenu. J'invite les lecteurs à lire l'article pour pouvoir savoir exactement ce qui se passe. Parce que, quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur privé. Et sincèrement, tout le monde parle de l'AMU. Oui, on en parle également. Les cartes qui sont produites, qui ne sont pas, que les gens ne viennent pas à retirer, et le nombre de bénéficiaires, etc. Mais le plus important, c'est de savoir ce que ça pèse au niveau de la, enfin, ce que ça engendre comme coût au niveau de l'entreprise, au niveau du secteur privé, qui aujourd'hui se retrouve entre deux feux, vous comprenez? Parce que la mise en œuvre de l'AMU est là, mais d'un autre côté, il y a des entreprises qui continuent de payer l'assurance privée, et parce que bon, on va pas quand même priver les employeurs de leurs droits à l'assurance, comme le constate le Code du travail. Donc, ce genre de réunion, moi, j'invite souvent les uns les autres à y prendre part, à écouter, à suivre, parce que quoi qu'on dise, le secteur privé, c'est lui qui tire la croissance, qui tire la richesse, et c'est important justement d'être à l'aune de ces informations dans le cadre de ces dialogues public-privé, et pour que les gens puissent véritablement savoir comment orienter les activités, comment est-ce qu'au niveau, en tant qu'employé dans une structure, comment est-ce qu'ils font, voilà, quels sont les avantages, par exemple, de l'AMU, et quelle est la situation, quel est l'état des lieux, que fait justement le secteur privé pour garantir une mise en œuvre réussie de cette assurance maladie universelle, et même au niveau de l'ETR, les réformes qu'il faut faire justement pour alléger un certain nombre de choses pour les entreprises.
Oui, mais Ambrose, oui, quand on suit aujourd'hui ces mécanismes et aussi par rapport à l'avantage que cela donne aux entreprises ou même au secteur privé, on nous dit, et en tout pour tout, est-ce que c'est trop lourd pour les secteurs privés? C'est vrai que nous ne sommes pas en quelque sorte à la place alors de ces entrepreneurs ou de ces opérateurs économiques qui sont dans le secteur privé, mais est-ce que c'est lourd?
Oui, j'estime que au vu de ce que déploient déjà ces entreprises et sociétés, surtout privées, en termes de masse salariale, en termes de dépenses ou de sortie des fonds dans leurs services, et que maintenant payer les impôts et les taxes, et quel impôt et quelle taxe encore, et de la façon la plus gendarme possible, et ensuite prélever l'AMU pour le nombre d'employés qu'on a dans son entreprise, je crois que personne ne peut dire que ça ne pèse pas. Et nous sommes dans un pays, et quand ça se passe comme ça, tu vas te livrer à qui? Tu vas aller le dire à qui? Tu es obligé de ruminer ta colère en toi avec deux options de solutions devant toi. Soit tu acceptes, tu avales la couleuvre, ou soit tu fermes et tu mets les gens au chômage. C'est ça la réalité. Quand on prend le cas de l'ETR, par exemple. L'ETR, au temps de Gapéri, ils étaient à 350 milliards. Mais là, l'ETR nous dit qu'il est à 1 milliard 200 millions. Alors, les 800 milliards dont on parle, ils l'ont trouvé où? C'est-à-dire qu'ils sont obligés de siphonner les gens, d'harceler les gens, pas de rançonner, mais de ratisser trop large pour finalement fatiguer les Togolais. Beaucoup ont fermé. Quand vous leur demanderez, ils vous diront qu'ils ont les chiffres. Mais beaucoup ont fermé les boutiques. Et à part ça, il y a la CNSS aussi qui est là. Les montants que certains qu'on prélevait par le passé, les choses ont augmenté. Les choses ont augmenté au niveau des écoles privées, au niveau des officines privées médicales, des centres de santé privés, au niveau même de il y a plein de structures qui sont tenaillées par ces éléments-là. Et maintenant, c'est l'AMU qui vient maintenant. Imaginez l'OTR prélever sur le revenu. On prélève sur le revenu de l'employé. Et l'employeur même paie des taxes pour ce qu'il fait. Et encore, faudrait savoir si ces taxes-là sont justes par rapport à la taille de l'entreprise et par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est des questionnements qui sont là et qui méritent d'être répondus. Parce, ou bien, c'est des impôts, c'est des taxes qui sont imposées à la taille du client ou au visage du client. Est-ce que vous me comprenez?
Oui, je vous comprends.
Pour une entreprise qui emploie peut-être 10 personnes, on peut vous demander de payer 2 millions. Mais vous dites que vous n'avez pas 2 millions? Parce que vos charges salariales même en disent long sur ce que vous souffrez. Et ensuite, tout ce qu'il y a comme AMU vient d'en prendre, et ce qui reste pour l'entreprise en termes de bénéfices. Et donc, le chiffre d'affaires est touché, et on ne sait à quel c'est se vouer. Et donc, les gens fuient. Les gens sont obligés de quitter pour aller s'installer au Bénin. Je n'invente rien. Certains même ont pris le large vers les pays pas hostile, linguistiquement hostile. Ça y est, parle du Ghana. On est plus dans un pays francophone, on n'est plus. libéral dans un pays francophone est plus libre à travailler en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina. Mais là aussi, les terroristes, les djihadistes sont là. Maintenant, que faire pour retenir les Togolais qui veulent prester, qui veulent entreprendre? Imaginez, les petits entrepreneurs, ceux-là qui veulent entreprendre maintenant. Après ça, on s'installe en même temps, le tiers vient en même temps. Oh, je n'ai même pas encore commencé par ouvrir la boutique. Le tiers est présent. Avec des numéros, on prend ton numéro. Non!
Est-ce que ça se passe comme ça?
Oui, oui. Moi, j'ai un ami ici, il y a des cons ici, qui vend des, qui arrange les portables. Il a un petit local de 2,50 m. 1,50 m sur 2. Le tiers prélève, il prend des taxes chez lui. Maintenant, il a voulu changer de boutique. Il a aménagé. Il n'est même pas... c'est les peintres qui sont venus badigeonner. Déjà, on me prend le numéro de celui qui veut s'installer. Et on leur a dit que c'est l'autre là. Il dit, ah. Alors, ils prennent déjà les taxes là-bas. Donc, le gars est obligé. Il ne peut pas garder les deux. Il est obligé de fermer ici pour se retourner là-bas. Il m'a appelé directement pour dire, mais il ne comprend pas. Donc, eux, ils ne vont pas travailler dans ce pays. Donc, personne n'est contre l'ETR. Moi-même, le fait, trop d'impôts sur l'impôt, le fait même d'aller jusqu'à 1 000 milliards, là, c'est trop pour les Togolais, quoi. Le Togolais, il a son niveau de vie, il gagne combien? Ceux qui sont des 4 à 1, dans la fonction publique, gagnent combien? 300 000. Indemnité, prime, ajoutée, peut-être tu te retrouves à 450 000.
Après tout, c'est pour participer au budget national.
On peut participer au budget national, mais on ne va pas se tuer pour participer au budget national. Nous avons nos familles à nourrir. On a des choses à faire. Vous voyez comment les gens meurent? Les gens vont tomber malades dans la famille. Les gens vont vêtir. On va payer l'école des enfants. 300 000 francs, déjà par mois, tu te retrouves avec 100 000 francs. 100 000 francs peut-être, sur ce revenu, le tiers prend ce qu'il doit prendre. Alors que ça, ça n'existait pas par an. On ne refuse pas. Le tiers prend, ils prennent les impôts jusque sur le puce de téléphone. Tu as même pas appris ça? Allez, va faire une enquête, tu vas te retrouver. Tout ça là, je ne veux pas rentrer dans ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais moi, je l'ai déjà dit que c'est trop quoi. C'est-à-dire, il suffit que ma gloire, même l'habit qu'il porte là, les chaussures là, ça a déjà été taxé depuis le port. Même depuis l'aéroport, c'est déjà taxé. Depuis l'Europe, c'est déjà taxé, arrivé au port. Maintenant, celui qui veut dédouaner ça même, encore, va encore payer. Et donc, je prends le cas de l'AMU. L'AMU dont on parle là, ça crée déjà des problèmes aux agents des pharmacies. Il y a 3 déjà qui ont été licenciés. J'ai des éléments de preuve ici, dans mon portable. Parce que, juste un exemple, le monsieur est venu avec 5 ordonnances. C'est les mêmes médicaments, mais c'est les gens de différents noms. Mais je suis dans la pharmacie, comment ça se fait? Je le fais. Maintenant, c'est l'autre là, l'ami qui demande, qui dit, pourquoi on va servir les mêmes médicaments pour 5 personnes en même temps? Et quand on interpelle le directeur de la pharmacie, c'est celui-là qui tombe dans le problème et il est licencié. Il est licencié, il n'est pas le seul. Pour dire que si nous allons créer des institutions qui viendront créer des problèmes aux Togolais, on n'en a pas besoin.
Merci.
On n'en a pas besoin.
Merci Ambroise. Oui, Magola, après tout, quand on prend l'OTR et l'AMU aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'il s'agit, finalement, c'est pour apporter quand même du bien aux populations.
Oui, normalement c'est cela le boulot, sinon leur job dans la cité, et apporter, n'est-ce pas, leur pierre au budget national pour que après tout ça rejaillisse sur le citoyen lambda et le consommateur final que nous sommes. Mais après tout, comme Elom l'a si bien dit dans son article, c'est la population qui crée la richesse en fait. Et il faudrait pas que dans ce processus-là, que la population qui, à la base, crée cette richesse soit victime, n'est-ce pas, du système instauré. Moi, tout ce que je vais dire, quand on met de côté l'OTR, on met de côté l'AMU et tout ce qu'il y a avec, moi, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'aider ce secteur privé puisque c'est de ça qu'il s'agit. On nous parle d'un dialogue, enfin, voilà, d'un dialogue, voilà, secteur public et privé. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est comment aider ce secteur privé à avoir de l'embonpoint, justement, pour créer plus de richesses. parce que j'ai mal en tant que Togolais, non seulement en tant que Togolais, mais en tant que jeune Togolais, de voir des jeunes quitter le pays. Et par quelle manière encore, par quelle voie, advienne que pourra. Parce que on se sent étouffé dans son propre pays. Ces jeunes-là, pas parce que les gens n'ont pas été à l'école, pas parce que les gens n'ont pas essayé d'entreprendre quelque chose, mais le système est tel que, à au-delà du discours qu'on tient, la réalité du terrain est tout autre. Et donc, pour beaucoup de jeunes Togolais, on se dit, mais si tant est que dans mon propre pays, je n'ai pas la main de manœuvre nécessaire pour exister en tant que personne, mais qu'est-ce que je perdrais à me lancer dans une aventure, peut-être advienne que pourra. Et vous allez voir, il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, lorsque vous allez un peu dans le secteur du service des passeports, vous allez voir des queues qui quittent le service jusqu'à qui finit au niveau de GTA. Vous étiez témoin. Et normalement, c'est symptomatique. Ça doit renvoyer un message à nos dirigeants. Moi, je dis, on ne peut se sentir mieux que chez soi. Mais si les Togolais, à un moment donné, dans leur majorité d'ailleurs, décident de quitter leur propre pays, pendant qu'on laisse derrière, et en tout cas, mes femmes, et familles, tout ça, enfants, c'est qu'il y a nécessité d'écouter ces gens-là pour voir ce qui les amène à décider un beau matin de quitter le pays. Pour moi, c'est le secteur privé, comme tout le monde le sait, qui crée la richesse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ce secteur privé à jouer pleinement son rôle? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais quand on fait la fiesta, on est en joie parce que l'OTF peut-être a réussi à faire plus de 1000 milliards. Enfin, oui, c'est ça, non?
Et plus de 1000 milliards.
Plus de 200 milliards.
1200 milliards. Normalement, ça ne doit pas être une fête, en fait. Ça devrait être un truc normal si à la base... on a la base nécessaire et les Togolais vont payer leur impôt normalement.
Et volontairement.
Volontairement, sans rien ressentir. Mais lorsque vous peinez à exister et que d'un côté, le service fiscal se réjouit parce qu'on a fait plus de 1000 milliards, je crois qu'il y a un problème. Et pas parce qu'on n'aime pas notre pays. Nous tous, on voudrait que le budget, enfin, puisse avoir des ressources conséquentes pour mener des actions de développement dans le pays. Et qu'on soit tous bénéficiaires. Mais quand la balance n'est pas équilibrée, c'est-à-dire, on demande plus aux citoyens ou à la population à la base de faire des sacrifices et elle le fait, mais en retour, elle n'a pas ce qu'elle devrait avoir aussi des pouvoirs publics. C'est ça qui pose problème.
Merci beaucoup, Magloire. Alors, nous allons parler politique. Et là, c'est vrai que depuis un temps, le Togo est dans la préparation alors des prochaines municipales. Et pour cela, il y a même d'ailleurs la révision des listes électorales qui a commencé depuis le 7, c'est-à-dire le lundi dernier. Et dans la zone 1 ou la zone 1, c'est pratiquement la région maritime qui est concerné. Et après cela, il y a la CENI qui a demandé quand même une prolongation, même d'ailleurs, de cette révision de liste électorale. Est-ce que ça a été prévisible par rapport même d'ailleurs à tout ce que des uns et des autres parlaient, même d'ailleurs des irrégularités au cours alors de ces 3 jours de révision de liste électorale? Est-ce que ça a été prévisible?
Oui, bon, de toutes les façons, on savait que les 3 jours ne pourraient pas suffire. Bon, même si on donnait jusqu'à 7 jours, ça ne suffirait pas, vous comprenez, parce que les attentes sont énormes. Quand on prend la dernière révision de liste électorale, là, le délai qui a séparé cette dernière révision à ce qui se fait aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont perdu leur carte d'électeur, l'ont égaré, des gens qui ont eu 18 ans révolus maintenant. Donc au niveau de la zone numéro 1, par exemple, où on a donné 3 jours initialement, prorogé de 24 heures, c'est-à-dire qui prend fin aujourd'hui, c'est très important d'appeler les uns et les autres à pouvoir se faire enrôler sur les listes électorales afin de pouvoir participer justement aux élections municipales qui arrivent et à d'autres échéances électorales. Donc 3 jours, c'était vraiment insuffisant. Maintenant qu'on est à 4, moi je dirais toujours que c'est insuffisant parce que on est toujours en pleine semaine. Vous voyez, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui c'est jeudi. Et on aurait bien aimé que ça puisse aller jusqu'au week-end pour permettre à beaucoup de personnes qui n'ont pas pu, pour des raisons professionnelles, se faire enrôler d'aller voilà se faire enrôler pour bénéficier de leur carte d'électeur. C'est vrai que c'est compliqué, c'est quand même un problème de timing, mais il aurait été souhaitable que ça puisse aller jusqu'au week-end, ou bien qu'on démarre peut-être en milieu de semaine pour aller jusqu'au week-end, pour permettre justement à la majorité ou de ces personnes-là de pouvoir disposer de leur carte d'électeur.
Eh bien, Ambrose, c'est vrai que pratiquement nous sommes habitués à cette prolongation hein, de la CENI par rapport à ces, soit si c'est le recensement électoral ou bien cette révision des listes électorales. Or, nous savons que déjà à Lomé, il y a une population massive, bien sûr, à Lomé. Est-ce que déjà ça ne devait pas être quelque chose de prévu, de telle enseigne qu'on pourra donner des jours considérables pour ce mécanisme ici ou cette opération à Lomé?
J'espère que vous avez lu le titre à la une de mon journal concernant la CENI, prochaines élections locales et révision des listes électorales. La CENI viole la loi et lance la machine à fraude. Ça, c'est notre titre. On me demandera pourquoi je parle de fraude. Puisque les élections dans ce pays, on parle seulement de fraude, tout simplement parce que la fraude ne se déroule pas seulement le jour de l'élection. Comme on voit certains ramasser les boîtes dans lesquelles on met les urnes, où on voit encore d'autres refuser à certaines personnes de voter, où on voit encore d'autres plier 4 ou 5 bulletins pour mettre dans un truc. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est le jour de l'élection. Mais les fraudes qui se passent en amont, habituellement, ça vient de commencer comme ça. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où la CENI, qui est l'organe qui organise les élections, qui est basé à Lomé, pour organiser une révision électorale, il faut commencer par où? Il faut commencer par le Nord. La CENI doit commencer par le Nord, parce que là-bas, qu'est-ce qu'on dit souvent? Les gens ne sont pas nombreux comme dans le Grand Lomé. C'est là où les gens sont nombreux, qu'on prend du temps, on prend son temps pour bien organiser. Maintenant, ils font l'inverse. Parce que quand on commence par Dapaon, on descend à Mango, Kara, jusqu'à Sokolé, on sait qu'on a déjà commencé par là-bas et on expérimente les machines, les groupes électrogènes, jusqu'à descendre, et même les EPS, ceux-là qui sont là pour enrôler, parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas compétents, excusez-moi, mais qui ne maîtrisent pas forcément. Et c'est comme si ça donne l'impression que tout cela se fait, on commence à Lomé pour tester les machines, la preuve. Le confrère, la dernière fois, parlait d'Anero, d'Afanya, de partout, même à Lomé ici. Si, là où le groupe électrogène a marché, c'est la machine même, l'ordinateur qui ne marche pas. Là où l'ordinateur est défectueux, vous avez le groupe électionnel, il n'y a pas de carburant. Donc, vous pensez que ce n'est pas fait, vous ne voyez pas que c'est fait intentionnellement pour nuire, pour retrancher des voies, pour éviter que les gens soient là. Et au pire des cas, vous allez voir des gens, au moins une douzaine de personnes alignées, pour s'inscrire, pour renouveler. Et on leur dit qu'on a fermé. Ça s'est passé à Gouet. Un monsieur s'est énervé, il m'a appelé hier. Il m'a encore appelé de venir me constater. Il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont là. On leur dit qu'ils ont bouclé. Ils ont fermé. Et donc, dans ça, on comprend qu'on ne voudra pas que dans la zone que Mami qualifie de zone de l'opposition. Pourtant, là-bas, c'est leur fief. Madame Mémonato a dit que la Gouet, c'est leur fief. Mais on fait ça. Aux citoyens qui veulent avoir ne serait-ce que leur carte. Les enfants qui sont en terminale, en première, il y en a qui ont 18 ans, 19 ans et 20 ans. Il faut leur faciliter ça pour qu'ils aient la carte. Parce que là, ils sont sûrs que ces enfants-là, rares sont ceux-là qui iront voter. Maintenant, aujourd'hui, on a le problème de ne même pas choisir d'aller, comme l'homme l'a dit, jusqu'en week-end. Nous sommes dans des jours ouvrés. Lundi jusqu'à jeudi même, c'est ouvré. C'est-à-dire que les gens sont au boulot. Ils vont quitter à midi. Midi, c'est pour manger, retourner. C'est la pause. Tu vas aller et qu'avec ces machines qui ne travaillent pas, le groupe qui n'a pas de carburant, tu vas faire ta carte. Au moins avec samedi et dimanche, tu sais que tu sacrifies dimanche là. Tu ne vas pas à l'église. Ou samedi, il n'y a pas funérailles. Tu vas, même si c'est 7 heures jusqu'à 17 heures. Oui, samedi, c'est pour les... c'est pour... Bref, c'est un habit de la gamme. Mais on laisse ça comme ça. C'est pour les mariages et les funérailles. Et donc, si c'est samedi, dimanche, si la personne décide de rester, de prendre, de disposer d'un temps de 7 heures jusqu'à 17 heures, il fera sa carte. Donc aujourd'hui, Et bizarrement, la CENI n'a pas communiqué. Vous allez voir, il n'y a pas eu de communication sur les médias. Il n'y a pas eu de, comment on appelle ça, et les spots. Il n'y en a pas eu. La CENI avait travaillé avec les médias. Est-ce que la CENI a travaillé avec vous? Est-ce qu'elle a travaillé avec vous? La CENI ne nous a pas appelés. Personne ne nous a appelés. Et même sur les radios partenaires, les radios au moins 5, 10, 10 sur les radios le même, je ne crois pas que la CENI a fait publicité. Mais vous allez voir, quand ils vont rentrer à partir de Tapamé jusqu'à Sokoné ou à Kara, là, ils vont commencer par tambouriner. Et là-bas, tu ne verras pas qu'un groupe de terroristes manque de carburant. Tu ne verras pas d'Apaon ou à Kara, un groupe de une machine. Et on mettra ceux qui maîtrisent l'informatique là-bas. C'est ça, Pascal. Et donc, pour vous dire qu'on n'a pas besoin de vous. Nous, on a déjà le Sénat, on a l'Assemblée, on a la présidence, on a la primature, bientôt on sera président du Conseil. Et le reste, allez vous débrouiller dans la mer.
Merci, merci Ambroise. Oui, Magula, au-delà de la question même d'ailleurs des municipales, vous vous intéressez au président de la République, puisque le Sénat, enfin le Parlement va se réunir en congrès et très prochainement pour l'élection alors du président de la République. Et là, je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux, mais je lis votre une ce matin. Vous écrivez prochain président de la République. Que dit la boule? Et vous mettez à la une alors du journal la photo de Jikris Olympio, président national de l'UFC, et vous mettez bien sûr ex-leader charismatique de l'opposition.
Oui, vous savez que depuis, on va dire, un peu plus d'un an, le Togo est entré donc dans une nouvelle phase, celle donc d'installation du nouveau régime parlementaire. Et dans ce processus, à l'étape actuelle, il ne reste que quoi, deux paliers à franchir, celui donc du président de la République et le président du Conseil des ministres qui viendra boucler tout. Ambroise le disait tantôt, il y a quelques jours, on a donc procédé au-delà de l'élection des sénateurs à l'installation du bureau du Sénat. Et donc, le prochain défi à relever dans ce processus, c'est donc l'élection du président de la République. Alors, depuis quelques jours, il y a des spéculations qui vont bon train. Il y a des noms qui fusent un peu partout. Mais il nous est quand même revenu au niveau du journal Flambeau des démocrates, la redondance autour d'un nom. Qui est donc M. Jikris Olympio, que nous connaissons tous, le président national de l'ANC, ancien chef de file de l'opposition.
De l'UFC,
oui. Je voudrais dire. Et son nom revient avec redondance. Et c'est vrai, on a poussé plus loin nos curiosités et on s'était rendu compte qu'effectivement, ça faisait débat jusqu'à un niveau donné du cercle de pouvoir, où beaucoup pensaient que le monsieur avait déjà, ou du moins a une santé un peu fragile et qu'il ne serait pas peut-être la bonne personne. Mais pour d'autres également du cercle de pouvoir, on estime que pour le moment, il ne peut être que l'homme idéal qui viendra parachever donc l'accord signé entre l'UFC et le RPT et qui a donc, selon les tenants de cette thèse, a abouti aujourd'hui a eu un écosystème un peu calme, apaisé, et donc faire de lui le prochain président de la République donnerait plus d'écho à cet accord, mais au-delà de tout également, viendra concrétiser ce qu'on appelle toujours l'alternant politique, tant souhaité par une certaine classe politique qui n'avait jamais vu jour dans le combat politique réel, mais que M. Jikris Olympio à la présidence de la République serait justement une autre manière plus douce, n'est-ce pas, d'arriver à cet idéal tant recherché.
Et même, Magula, je suis intéressé par cette partie justement de l'article. Vous écrivez « Le presque nanogénaire sans réel pouvoir constituera une sorte de trophée de guerre qu'exhibera Lomé pour donner du sens à l'alternance pacifique, le socle de l'alternance ou de l'alliance pardon RPT-UFC en lieu et place de la lutte politique jusqu'à présent infructueuse. Et si le ridicule pouvait tuer, rétorque un observateur face à un poste vidé de toute sa substance qu'est désormais la présidence de la République.
Ah oui, vous savez, il n'y a rien de nouveau. Vous savez qu'avec la nouvelle réforme qui est là, on parle certes du président de la République, mais en réalité, le pot s'est vidé de toute sa substance. C'est-à-dire que c'était juste un transfert de pouvoir qu'on a fait de la présidence à la primature pour parler du conseil des ministres. Et dans le registre actuel, si tu es président de la République, tu n'es là que de nom. C'est-à-dire que même la Constitution dit que le président de la République, de temps à autre, va échanger avec les chefs traditionnels. Vous allez, lorsque les ambassadeurs sont venus, ils vont passer de temps en temps, vous dire bonjour et tout. Et ça s'arrête là. Et le vrai, celui qui détient le vrai pouvoir, c'est désormais le président du Conseil des ministres. Et dans le schéma actuel, tout le monde le sait, c'est le président du parti au pouvoir, qui est donc M. Fornia Singbe, qui deviendra en réalité le vrai président de la République, dont le mandat est illimité. Et pour le président de la République, c'est juste un mandat de 6 ans et qui n'est pas renouvelable. Et donc, pour certains observateurs, même si on arrivait à désigner M. Jécris Olympio, ça ne va être qu'un fait, puisqu'en réalité, derrière, il n'y a plus rien. Mais, je le précise, au-delà de tous ces débats dans les cercles de pouvoir, on apprend aux dernières minutes que M. Jécris Olympio déclinerait l'offre du président de la République, enfin de monsieur Fornia Singbe. Mais d'ici là, on se demande s'il va pouvoir tenir ou alors il va abdiquer. En tout cas, c'est le wait and see.
C'est le wait and see pour le moment. Vous avez conclu même d'ailleurs votre article avec cela, le wait and see. Et l'homme, est-ce que vous envisagez quelqu'un aussi, quand on prend la personne alors de Jécris Olympio, est-ce que la personne peut faire l'affaire?
Oh, quelle affaire! C'est pas une question d'affaire. C'est une question d'être président de la République, selon la 5e République. C'est vrai que son nom revient avec insistance. Et puis quand vous analysez bien l'accord RPT-UFC et puis le parcours politique de l'homme, et justement aussi avec la position du pouvoir de Lomé, vous comprenez justement que il se retrouve pratiquement dans ce schéma-là. Maintenant, lui, de pouvoir confirmer s'il veut véritablement se retrouver à un poste du genre, malgré son âge, avec tout ce qu'il a donné à la lutte politique togolaise. Et maintenant, à part lui, on se pose la question de savoir qui d'autre pourrait justement occuper ce poste-là. Vous savez que le président du Sénat est originaire de la région des Savanes, le président de la République est originaire de la région de la Kara, le président de l'Assemblée nationale est originaire de la région maritime. Donc il reste 2 régions, par souci d'équilibre géopolitique, pour qu'on puisse choisir le président de la République. Et donc si on s'inscrit dans cette analyse géopolitique, on peut se dire que le prochain président pourrait être issu de la région centrale, de la région des plateaux, pour avoir un équilibre géopolitique sur le plan national. Mais n'empêche, à défaut d'avoir justement un président de la République, on peut aussi avoir un président de conseil, mais pour le moment, on laisse pour le moment le poste vacant. On a vu que la région des centrales n'a toujours pas de gouverneur. Donc, ne soyez pas surpris que...
Non, centrale plutôt, n'a pas de gouverneur.
La région centrale plutôt, oui, c'est ce que je dis. N'a pas de gouverneur à ce jour. Et donc, ne soyez pas surpris que peut-être après le 6 mai, le président de la République n'existe toujours pas, ou que le poste soit vacant jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui soit véritablement la personne qu'on souhaiterait mettre. De toutes les façons, c'est trop tôt de se prononcer, et parce que je crois que c'est la dernière pièce du puzzle qui est très difficile à trouver, mais c'est seuls les hommes politiques savent exactement qui ça peut être. Pour le moment, les supputations vont montrer.
Tout à fait, les supputations vont montrer.
Une petite précision, dernière fois, lors de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année, le président de l'Assemblée nationale avait déjà annoncé aux députés que ce sera le prochain défi, n'est-ce pas, des députés, qui est donc l'élection du président de la République. Donc, on attend de voir.
Sur la question, vous écrivez à la une de votre journal, 5e République au Togo est président du Conseil des ministres avec la nouvelle constitution, même un gangster millionnaire et haut trafiquant de drogue peut diriger le Togo.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais est-ce que ce n'est pas fort, ça?
Non, ce n'est pas fort. Moi, je ne suis que la Constitution. Puisque la Constitution, leur fameuse Constitution, dit que le président du Conseil est automatiquement le président du parti majoritaire à l'Assemblée. Et donc, si ce président n'en est jamais élu, ne porte aucune voix élective, et qu'il peut devenir à tout moment président du Conseil, donc en aval déjà, ou je crois que c'est en aval, on peut retrouver un président du Conseil, un criminel de guerre, un Pablo Escobar, qui, dans son fief là-bas, père son âme, a financé toute une ville, et donc peut financer un parti politique, faire gagner des députés, parce qu'avant d'aller aux élections législatives, il faut des cautions. Et quand on a tout ça là, il faut des fonds de campagne. Lui finance tout ça. Et il est dans le parti aussi. Entre-temps, il s'est habillé en agneau et on le positionne comme étant le président du parti. Je ne parle pas du Parti Uni. Je parle de n'importe quel parti où un milliardaire peut se positionner, mais ce milliardaire-là, c'est un fossoyeur. C'est un criminel financier. Non seulement un criminel financier, c'est un blanchisseur d'argent. Et donc, tout ça, là, c'est des criminels. Et peut se retrouver, parce que dans nos pays pauvres ici, comme on le dit, on ne retrouve pas facilement celui qui est criminel financier. Des gens qui sont dans la drogue, des gens qui sont dans le blanchiment d'argent, c'est des criminels. C'est des vendeurs de drogue. Tu ne vois pas avec tes yeux. Et donc, ce monsieur se retrouve un jour devant la tête d'un parti qui, par miracle, parce qu'il a de l'argent, financer la campagne, financer de la fraude, peut se retrouver déjà président du parti, majoritaire. Et ce monsieur, contre toute attente, peut devenir président du Conseil de la République, président du Conseil des ministres. Est-ce que je mens? C'est ça la réalité. Parce que le monsieur n'est pas passé par la case élection. Il n'a pas passé par la voie élective pour devenir l'homme qui détient le tout pouvoir, le tout puissant de tous les pouvoirs de chez nous au Togo. Mais il y a un autre aspect que beaucoup ne soulèvent pas, sur lequel on reviendra prochainement dans notre journal, à part la recherche infructueuse du fameux président de la République. Il y a un autre aspect qui touche les deux entités là et qui va un peu aussi freiner la recherche au-delà de Jésus-Christ Olympio ou de Ninéi, professeur, tout ça là. On va soulever la prochaine fois qui va encore poser problème et qui va les obliger à toucher encore cette constitution qui est déjà éditée par Edith Togo.
Merci, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne sur nos deux numéros 90 86 35 35, 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57 pour donner leur avis ou s'exprimer également sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, chef.
C'est monsieur Oui, c'est monsieur Nyamavo. Allez-y.
Oui, oui. Oui. Je m'aligne derrière M. Ambroise par rapport à ces derniers mots. Souvenez-vous, entre-temps, on avait pris une voiture, les routiers avaient pris une voiture sur la route de Blita, il y avait des drogues. Et devant ces forces de l'ordre, les chauffeurs a pu. C'est souvent le rapport de la police. Hein. Une voiture aussi est prise sur la route de Kualimé. De drogue, les chauffeurs au châssis. Là, on a ouvert les enquêtes. Je ne sais pas, à votre niveau là-bas, si vous vous souvenez, l'enquête là est bouclée. Si c'était un citoyen lambda, comme moi par exemple, est-ce qu'on ne va pas connaître le propriétaire de voiture et remonter, voir les informations? Ça aussi, ça a ouvert les enquêtes. Voilà. Donc, il y a de ces gens là qui vont un jour nous dominer avec l'argent ici. Et dire que c'est eux qui veulent donner à manger à tous les Togolais. J'ai demandé à quelqu'un, bon, pourquoi tu ne veux pas aller t'enrôler? Le président Fora dit que c'est lui qui va rester là-bas et tous les Togolais vont manger à leur faim. Il va aller faire quoi, quoi? Même si vous êtes les conseillers, il ne fait pas quoi. Il ne sait pas la solution. C'est Fora qui a la solution. Donc, il a décidé de rester là-bas. Donc, il ne va pas se gêner. Donc, je demande à ceux-là qui ont cette intention de ne pas perdre espoir. Notre seul espoir, quelqu'un le disait, excusez-moi, hein, notre seul espoir, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Pardon.
Merci, monsieur Nyamavo.
Donc, il y a espoir, il n'a qu'à faire un effort.
Merci, monsieur Nyamavo. Allô?
Oui, bonjour, mon grand-père.
Bonjour, Benoît. Comment vous allez?
Je vais dire.
D'accord, allez-y.
Et chez vous.
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Bon, moi, je vais dire, la constitution, la nouvelle la nouvelle constitution, ou bien régime parlementaire, ne va pas avec notre credo, notre hymne. On dit pour la prospérité du Togo, Togolais, viens bâtissons la cité. Pour le régime parlementaire, il faut être, avant d'être président ou bien être avant d'être à la tête de l'État, il faut avoir un parti politique majoritaire à l'Assemblée nationale avant d'être le dirigeant. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de diviser le Togo, vient d'empêcher le Togolais? Parce que quand je prends l'hymne national du PNB, il y a des mains. Et quand on tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale, et il y a des mains même sur que le régime parlementaire là n'est pas bon pour notre pays. Même pour l'hymne national de Sivani Selumpio. Écoutez, moi je le dis, Bonne journée
à vous aussi, Benoît. Bonjour les amis, un jour de prolongement pour la révision des listes électorales. Vraiment, la CENI n'a pas fait d'effort. Beaucoup de personnes sont au boulot les jours ouvrables. Au moins une semaine de révision fera que les week-ends vont bon nombre alors de personnes peuvent faire le déplacement pour la révision. En tout cas, un jour de plus ne va rien changer. Et la CENI n'est qu'une bombe à retardement. C'est Nyamaku qui écrit le message 90-86-37-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Je pense, c'est Abdel.
Abdel.
Oui, allez-y, Abdel.
Bonjour à vos confrères, à mon ami Kondio. Je voudrais me prononcer un peu sur le sujet. Le premier sujet concernant l'examen, concernant le ministère de l'enseignement supérieur. Vous savez, le métier de journalisme aussi exige beaucoup de sacrifices. Nous n'allons pas rester chaque fois dans les suppositions. Je ne sais pas si, après cet atelier, M. Ambroise Kondio s'est approché du ministère pour voir si les procédures en amont ont été respectées ou en réalité n'ont pas été respectées, mais parce qu'en voir ou bien et vous écouter, j'ai l'impression qu'on n'est que dans les suppositions. Donc il faut faire toujours un effort d'approcher, de donner des informations crédibles. Concernant l'OTR, je suis d'accord avec vous, l'OTR dans l'exagération, mais est-ce que c'est de sa faute? On lui a donné un objectif à atteindre. Et elle fouine partout pour pouvoir atteindre cet objectif. Je pense que c'est le gouvernement qui doit comprendre que la population souffre. Elle doit faire en sorte que toutes ces exacerbations trouvent solution. Concernant le président, si c'est vrai que Gilles-Christ la santé est fragile, mais il y a d'autres personnes. Il y a d'autres monuments de la politique togolaise qui peuvent occuper tranquillement ce poste. Hein.
D'accord, merci.
Je vous remercie.
Merci Abdel. Merci Abdel. Merci pour votre intervention. Allô?
Bonjour Pascal.
Oui Basile, bonjour. Comment vous allez?
Ah, togolaisement.
D'accord, allez-y.
Bon, nous on le dit toutes les fois. Quand on fait les choses dans le pays, rien que pour que quelqu'un reste au pouvoir éternellement, on ne peut pas prendre tous les Togolais comme des cons. Moi, je l'ai toujours dit. Qui va me dire parmi vous là-bas que toutes ces contorsions-là, ce n'est pas pour que le président actuel reste là-bas comme il le veut. Le même fait pratiquement les deux tiers. Les gens parlent de un tiers, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La région maritime plus Lomé, on fait deux tiers de la population togolaise. Comment on va partager trois jours de recensement à trois zones? Mais c'est pas bien. Ça ne se comprend pas. Ils n'ont qu'à revoir ça là. Hein? Parce que les Burkinabés, les Béninois et les Ghanéens là, ils vont venir s'enrôler. Pour leur cause. Parce que moi, je ne veux pas. Pourquoi le Togo, lui, doit être dans ça? C'est ce que moi je vous demande. Merci.
Merci Basile. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour Allô. Le compte de cette émission. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Ali.
Ah, c'est Ali. Allez-y, Ali.
Oui, gloire à Dieu pour cette journée sur la terre de nos aïeux, lors de l'humanité. Nos dirigeants ne prennent pas soin de nous, populations togolaises. OTR, objectif défini. Et retenez-vous, la stratégie pour faire la recette à l'OTR est basée sur uniquement les populations et non sur nos entreprises nationales, surtout minières, le port, SNPT. Quelle contribution ils font au budget national? Imagine, quand on vous dit que le port, ce qu'il fait comme contribution n'est pas si considérable, et chaque fois, on presse les artisans, ceux qui font un effort dans le privé pour faire développer le pays. Quittons cela, venons à la politique. Je vous dis, ceux qui ont introduit viennent à la radio nous parler que 5e République, c'est fait, qu'est-ce que vous pouvez retenir ceci? Ils sont entrés dans l'histoire par la voie négative. Et ils sont des criminels.
Merci Ali. Bonne journée. Et là, je pense que Ali, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de jeudi. Chers confrères, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Et l'homme, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons fait, c'est-à-dire nous avons fait le débat ici en studio. Votre réaction?
Non, je n'ai pas de réaction par rapport aux commentaires des auditeurs. Je souhaite une bonne suite de journée à toutes et à tous.
Merci, l'homme. Ambroise?
Oui, c'est ton ami Abdel qui nous a interpellés.
Son ami.
Oh oui, son ami, parce que quand nous, on aime les débats critiques. Je veux juste le dire que je suis à ma 4e parution depuis 2023. Sur ce dossier au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Sûrement que c'est ça qui lui a fait partir. Mais comme lui aussi, il a voulu prendre la patate chaude, la dernière fois, c'était la patate chaude. On a cité la patate chaude pour le ministre Kankan Natchaba. Et donc, c'est un sujet que je maîtrise d'abord sur le volet juridique, parce qu'il y a un décret, il y a une loi. Les deux, il y a un qui est sur l'autre, et qu'on essaie de renverser. Et en plus, sur le plan formel de la mise en œuvre même de cette initiative qu'est l'examen national. Et donc, on ne peut pas avoir un agrément donné par l'État togolais. On paie 400 000 francs chaque année, je crois. Et que l'agrément précise que vous êtes appelé à former les apprenants, les étudiants, à leur délivrer des diplômes. Des diplômes qui seront certifiés et homologués par l'État après. Et qu'on nous dise... Tu vois qu'il y a une contradiction? Qu'on nous dise après qu'on viendra faire un examen national. Au lieu de mettre un mécanisme de contrôle au sein des universités privées. C'est clair, quoi. Ce que nous disons, il y a une logique. Donc, c'est un sujet que je maîtrise d'abord en tant que journaliste. Et j'ai fouillé. J'ai le décret. J'ai la loi de 2017. J'ai d'autres. J'ai l'arrêté du ministre qui a introduit le décret au gouvernement qui n'a pas été signé avant que le ministre ne lance le débat. C'est plusieurs mois après que le ministre est obligé de se retrancher et après que le gouvernement ou le président à adopter le projet en Conseil des ministres. Mais ça aussi, j'ai l'impression que nos ministres ne voient pas trop ce que leurs collègues font. Et donc, moi, je dis aujourd'hui encore qu'ils ont induit le président en erreur. Parce qu'on ne peut pas être dans un système LMD et faire un examen national. C'est incompatible.
Pour
Abdel, il n'a qu'à apprendre ça que c'est un sujet que je maîtrise. J'ai le décret, j'ai la loi, j'ai l'arrêté. Et j'ai les contours de ce dossier.
Alors, sur le sujet, il y a Kelly qui nous suit et qui a écrit, bien sûr, dans l'enseignement supérieur et dans le contexte du système LMD, il n'existe pas d'examen. Chaque parcours est autonome et avant de passer de LM de L à M ou à D, il faut avoir validé toutes les unités d'enseignement. Ils sont en train de forger un système incongru qui n'existe pas. Je précise aussi que dans le parcours L laquelle vous pouvez traîner des yeux jusqu'à 3 ans. Et si vous ne validez pas, vous ne pouvez pas avoir votre licence. Chaque parcours est clôturé par soit un mémoire de licence ou de master ou la thèse de doctorat.
C'est ça.
C'est lui, ce que Kelly écrit.
C'est un acteur qui maîtrise le sujet.
D'accord.
Et c'est depuis l'université publique hein, jusqu'à l'université privée. C'est comme ça.
D'accord.
Les gens ont fait 7 ans. Ils n'ont pas la licence. Parce qu'ils n'ont pas validé les matières qu'ils ont laissées en L1, L2.
Tout à fait. D'accord. Et oui, Magola ?
Non, moi, je voulais peut-être, puisque je ne me suis pas prononcé sur le sujet du recensement, la révision électorale, moi, je me dis, j'ai l'impression un peu comme si le pays est tout calme, ça ne plaît pas à certaines personnes. Sinon, ça fait quand même combien d'années qu'on est ici à parler de recensement électoral, les machines qui ne marchent pas, les dysfonctionnements du matériel et tout. Mais à un moment donné, quand vous prenez un peu les statistiques, moi je veux dire quelque chose d'objectif. Vous prenez toutes les statistiques données, la population est plus dense dans le sud du pays que dans le nord. Mais chaque fois, on commence toujours par le sud. C'est pas que je dis que le sud du Togo ne fait pas partie du pays, mais la réalité c'est que pour éviter certains débats stériles, mais peut-être pour une élection, on peut démarrer par le sud. D'autres élections démarrent le recensement électoral par le centre et l'autre par le nord et vice-versa. Et ça éviterait des suspicions, des débats stériles. Mais quand moi j'ai envie de me poser la question, mais quel article de quelle loi stipule que le recensement électoral au Togo doit toujours commencer par le sud? C'est là la question. Donc quand le pays est calme, j'ai l'impression que ça ne plaît pas à certaines personnes. Et ces gens-là, je leur supplie de faire profil bas et d'aider les premiers responsables, le chef de l'État à faire bien. Sinon ça là, c'est pas encore bien.
D'accord, merci. Nous sommes à la fin de cette émission, mais je voudrais vous convier à cette dédicace qui a lieu cet après-midi à l'ENA. Et c'est la dédicace à l'heure du livre, la décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo. Et c'est un ouvrage écrit par Dr. Kuntan Siangou. Et il est conseiller du président de la République, secrétaire technique de la CGFAC et secrétaire exécutif de la FCT. Et bien sûr, la rencontre, c'est ce jeudi à 16h, bien sûr, à l'ENA. Et merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à l'homme Tissoubé d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Et Ambroise Ponzo, merci d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal des Guadiens. Merci à vous. Vous, mon cher ami Magloa Kinviteko, rédacteur en chef alors du journal du journal Flambeau des démocrates. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akoutse a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.